Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Rouault, le fondateur de Snowleader, qui est un site e-commerce qui vend des accessoires de ski, de randonnée, d'outdoor, bref, tout ce que vous avez besoin d'avoir en tant que passionné de la montagne et de l'aventure, ça va se trouver sur Snowleader. C'est un site qui a commencé dans un garage en 2008 et qui a fait, sur les 12 derniers mois, plus de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes. Et d'ailleurs, ils viennent de lever plus de 10 millions d'euros dans une levée de fonds auprès de plusieurs investisseurs. Bref, ça fonctionne bien pour Thomas. Il a compris comment scaler du e-commerce, comment prendre un e-commerce qui, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui se fait à petite échelle, qui se fait, c'est de l'arbitrage, de la pub Facebook par-ci, du dropshipping par-là, des fournisseurs chinois. Lui, il a compris comment vendre des grandes marques sans faire du discount et monter une énorme marque sur son e-commerce avec un tribalisme de communauté, de gens qui le suivent, avec une fidélisation où les gens reviennent chez lui, avec un avantage compétitif sans avoir à vendre moins cher. Il nous parle de conversion, il nous parle de branding, il nous parle de comment est-ce qu'il peut travailler de manière innovante avec des influenceurs. Un gros e-commerce, quelqu'un de très, très sharp sur ces questions-là, généralisable à tout le marketing. J'ai énormément appris en regardant leur site, notamment en termes de programme de fidélisation et de comment est-ce qu'ils vont donner envie aux gens de s'investir dans l'aventure Snowleader en tant que client pour avoir l'impression qu'ils partagent et qu'ils participent à la construction de l'entreprise, ce qui fait qu'ils vont moins aller comparer les prix à droite, à gauche, ou ils vont moins aller se dire « bah tiens, Amazon me livre un peu plus rapidement », mais ils auront envie et réfléchiront même pas d'aller acheter chez Snowleader. Et là, il y a très peu de sites qui sont capables de dire « les gens viennent directement chez moi, il ne faut même pas une comparaison, il ne faut même pas une recherche Google ». Et Thomas va nous montrer comment est-ce qu'il est arrivé à monter cette puissance de marque. Avant de vous laisser sur ma conversation avec Thomas, j'ai une petite nouveauté à vous annoncer. Ça fait des années qu'on me demande sur Marketing Mania de faire une formation sur l'e-commerce, ce que je n'avais jamais fait jusqu'ici parce que simplement, je ne pensais pas avoir suffisamment d'expertise personnelle pour vous faire une formation sur ce sujet précis. J'avais de l'expertise dans la création de contenu, dans le copywriting, mais l'e-commerce, ce n'était pas ce que j'avais fait le plus. Récemment, avec mon équipe, on s'est associé à certains gros e-commerçants dont Thomas ne fait pas partie. Du coup, j'étais intéressé d'avoir ses conseils dans cet épisode, mais d'autres gros e-commerçants, des gens qui ont vraiment monté des marques intéressantes, qui ont vraiment des taux de conversion intéressants, qui ont vraiment une fidélisation, qui ont vraiment quelque chose en termes de marque, en termes de copywriting. Et on a fait une formation spéciale copywriting e-commerce avec des experts du sujet. Et ça sort très bientôt avec un tas de conseils gratuits qui vont venir en avant sur 7 jours de conseils gratuits pour les gens qui s'intéressent à l'e-commerce, qui s'intéressent au copywriting, qui veulent comprendre comment toutes ces techniques de copywriting dont on parle, et j'en fais aussi partie, souvent dans le domaine de la vente de formation, même de la vente de services, comment est-ce que ça s'applique à un produit physique? On s'est penché dessus avec des experts, on a fait une formation en profondeur sur le sujet. Il y a du contenu gratuit, comme toujours. Il y aura du contenu payant, comme toujours. Si ça vous intéresse, ça commence dans les prochains jours et vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur marketingmania.fr/ecom. Donc, E-C-O-M, pour faire court, c'est marketingmania.fr/ecom pour vous préinscrire sur la liste d'attente de la formation Copywriting e-commerce et recevoir les conseils gratuits sur comment appliquer tous ces conseils de copywriting que vous entendez en long, en large et en travers sur votre site e-commerce. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Thomas Rouault. Moi, j'ai un grand intérêt actuel, une grande réflexion. C'est comme je te disais juste avant qu'on enregistre, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir aujourd'hui, qui sont des gens qui se sont lancés il y a quelques années dans le dropshipping, qui n'ont pas leurs propres produits, ou des gens qui se sont lancés sur Amazon FBA, qui voient la compétition qui monte, l'arrivée de certains fournisseurs chinois sur le marché. Et de plus en plus de gens se réveillent au fait que l'e-commerce, ce n'est pas juste prendre un produit en Chine et le vendre un peu plus cher en France. Il y a aussi toute une réflexion autour en termes de marque, en termes de branding. Et le premier point qui m'intéressait de discuter avec toi, c'est simplement en fait le slogan de la boîte qui est sur le site et qui était sur le site, j'ai l'impression, quand elle a été lancée, qui est encore aujourd'hui, c'est The Roblochon Company. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça et de pourquoi est-ce qu'un site qui ne vend pas à l'origine du fromage, tu vois, quelle est la réflexion derrière et parle-moi un petit peu de comment c'est apparu et de quel rôle ça joue encore aujourd'hui, 12 ans plus tard.
Alors, l'idée du Roblochon, elle est vraiment concomitante à l'idée du lancement du site en 2008. On a fait le choix dès le départ de commercialiser des grandes marques. On n'a pas fait le choix de lancer notre propre marque comme d'autres DNVB. Et On cherchait un moyen de se différencier et de montrer un peu nos origines et de se différencier par le conseil. Et du coup, en étant basé au départ, on était au Grand Bornand, c'est une petite station qui est juste au-dessus d'Annecy, qui est la capitale du Reblochon. Et donc, on s'est dit, le meilleur moyen de communiquer sur le fait qu'on est installé à proximité de notre territoire de pratique, c'est de le claimer et de dire, bah voilà, on est The Reblochon Company. Et pour se différencier, au lieu de proposer du prix, comme tu le disais tout à l'heure, qui est un argument essentiel dans la vente en ligne, bah, plutôt que d'offrir du prix, on s'est dit, bah, on va offrir un Reblochon. C'est un moyen de se différencier, c'est un petit cadeau sympa, les clients valoriseront et ça nous permettra de mieux convertir dans le tunnel sans pour autant offrir du discount. Et se décorréler de cette image qui était vraiment importante en 2008 quand on s'est lancé, qui était que pour se lancer sur le net, il fallait proposer un meilleur prix qu'en magasin physique. Nous, c'était pas notre parti pris, on voulait pas détruire de la valeur, on voulait en offrir. Et du coup, le Reblochon était le moyen qu'on a trouvé pour pouvoir appliquer cette stratégie. Et puis, derrière cette idée-là, il y avait aussi notre volonté de vouloir relier le digital à l'économie pastorale, parce que on était au Grand Beau, on était en contact d'agriculteurs qui étaient qui étaient tous les jours en contact avec leurs troupeaux. Et du coup, on trouvait ça sympa un peu de relier ces deux économies qui n'avaient pas forcément de lien au départ, en réinjectant un peu de la valeur et donc en commandant énormément de reblochons dans la vallée pour pouvoir faire découvrir ce produit auprès d'un large public.
Donc les gens commandent 150€ ou plus sur le site à l'époque. Ils reçoivent un reblochon, un cadeau. C'était du coup annoncé, c'était un élément qui était central sur le site ou c'était une surprise?
Non, c'était vraiment un élément qui était central. Notre stratégie de lancement, elle était vraiment basée là-dessus. Comme on pouvait pas se différencier uniquement par les produits, il fallait qu'on développe les codes de notre propre marque, de créer de l'affect avec les clients. Et donc, c'était vraiment une promesse dès la home en disant, bah, dans votre panier, vous retrouverez un reblochon. Alors du coup, les clients, ils étaient un peu inquiets en disant, mais je vais avoir un reblochon dans mon colis, ça va sentir mauvais, comment il va être protégé. Mais du coup, ça a permis vraiment de créer une relation, de faire en sorte que les gens se souviennent de nous. En tant que consommateur sur Internet, il y a beaucoup de sites où du coup je commande un peu par impulsion et après je suis incapable de retrouver là où j'ai commandé l'article. Nous, notre idée, c'était vraiment de bâtir le socle d'une relation longue et durable avec nos clients via ce petit cadeau. Et du coup, depuis, on l'a vachement gamifié, on a ajouté des nouveaux cadeaux tout en gardant cette ligne directrice qui était d'offrir quelque chose d'original et qui venait de notre territoire. Donc on a fait un deal avec Opinel, qui est un fabricant de couteaux assez connu, qui fait des couteaux en bois qui sont fabriqués à côté de chez nous, vers Chambéry. On a aussi fait un petit kit pour fabriquer son Genépi maison, puisque le Genépi, c'est aussi un alcool traditionnel qu'on boit souvent quand on est à la montagne. Donc voilà, on a essayé de l'animer et on voit que bah, ça a un vrai impact sur l'animation de nos campagnes marketing sur le site et de notre taux de conversion. Et en fonction des périodes de l'année, bah, du coup, on choisit et on anime le nombre de cadeaux et le type de cadeaux qu'on propose dans le tunnel.
Quand tu vas mettre un cadeau comme ça sur un prix de 150€, est-ce que le panier, disons, nécessaire pour avoir le cadeau, est-ce que c'est quelque chose qui est décidé stratégiquement? Parce que j'avais vu des gens qui disaient, OK, mon panier moyen, c'est 120€. Donc, si je mets 150€, ils vont me prendre un truc en plus. Est-ce qu'il y a une stratégie comme ça? Ou c'est simplement de dire, bah, on va pas non plus filer un reblochon à chaque fois que tu achètes une paire de chaussettes. Comment est-ce que disons que si quelqu'un voulait reproduire ce type de stratégie avec un produit qui était totalement différent d'un reblochon, comment est-ce qu'il pourrait réfléchir aux paramètres à mettre, tu vois, sur ce type de promo?
Alors du coup, nous, quand on l'a lancé, on était vraiment au lancement, donc on n'a pas pu faire de calcul et de travailler sur Excel pour voir combien de notre marge on pouvait réinvestir dans le cadeau. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait et nos cadeaux ont différentes valeurs qu'on anime en fonction des périodes de l'année. Donc typiquement, pendant les soldes, on va essayer d'avoir une offre de cadeaux qui va être plus réduite, moins coûteuse. Et quand on est sur des périodes full price, on peut se permettre d'avoir des cadeaux plus importants. Après, pour répondre à ta question vraiment sur si d'autres personnes voulaient répliquer ce modèle-là, je pense que l'analyse qui doit être faite, c'est de dire si vraiment on voulait avoir une analyse pragmatique, c'est de faire de l'A/B test et de voir comment le cadeau permet de bonifier son taux de conversion. Et ensuite, par rapport à sa marge moyenne, de voir combien on est capable de réinvestir en termes de marge par rapport à l'évolution du taux de conversion ou du panier dans son tunnel, pour voir combien on est capable d'offrir aux clients pour pouvoir bonifier ces deux ratios qui sont vitaux pour le e-commerce.
D'accord. Tu as parlé tout à l'heure de cette idée. Bon, l'idée du Reblochon, c'est d'avoir une marque qui est mémorable. Et donc après, la marque, il faut qu'elle incarne certaines valeurs. Et tu as parlé de l'importance pour toi de ne pas te différencier sur des prix qui étaient moins chers qu'en boutique, mais de jouer sur l'aspect conseil. Et c'est vrai qu'on imagine que c'est plus difficile de faire du conseil quand tu es sur Internet que quand tu es en boutique. J'ai vu deux aspects dans mes recherches que j'ai fait sur Snow Leader qui étaient vraiment intrigants. Le premier, c'était que j'ai vu une vidéo où tu mentionnais que les gens qui sont les acheteurs de la boîte, donc qui choisissent les produits, sont aussi les gens qui vont conseiller les clients.
C'est juste, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu instaurer depuis le début. Alors au départ, on le faisait nous, c'était facile de nous l'imposer puisque quand tu lances ta boîte, t'es amené à faire un peu tous les jobs. Et ensuite, quand il a fallu organiser un peu les différentes BU compte tenu de la croissance, j'ai vraiment voulu maintenir la relation client dans les fonctions des acheteurs. Parce que je considère aujourd'hui que c'est les plus connaisseurs des produits et que souvent ce qu'on reproche dans les magasins physiques, c'est le niveau de connaissance des vendeurs qui est pas toujours extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de turnover. Et nous, on a la chance d'avoir des gens qui connaissent sur le bout des doigts des produits, qui s'occupent de rédiger les fiches produits, qui travaillent au quotidien avec les marques, qui sont formés aussi par les marques. Et donc, du coup, on a essayé d'organiser au fil du temps le maintien de cette relation directe avec le client dans le pôle des achats. Ça permet aussi aux acheteurs de mieux percevoir les tendances. Il n'y a pas d'inertie entre le service client qui pourrait dire « Ah bah tiens, j'ai ce client qui m'a posé cette question, est-ce que tu crois que ça serait pertinent de rentrer ce produit ?» Donc là, la relation, elle est directe. Ça leur permet aussi de mieux rédiger leur fiche produit parce que s'ils ont trois clients dans la journée qui leur posent trois fois la même question, ils font tilt direct pour pouvoir améliorer le contenu automatiquement de la fiche produit. Et puis, les acheteurs dans les boîtes, c'est souvent des divas. Ils sont courtisés par toutes les marques. De rester au contact du terrain, de rester au contact des clients, pour moi, c'est vraiment essentiel pour pas qu'ils prennent la grosse tête.
Et sur un point de vue purement logistique et d'organisation, comment est-ce que tu fais pour que la personne ait encore le temps de faire son job d'acheteur ? Parce que j'imagine que sur le nombre de commandes que tu dois avoir, il doit y avoir beaucoup, beaucoup de conseillers entrants. Est-ce que tu as un département service client qui est séparé, qui prend les requêtes plus simples, uniquement une partie des requêtes sont envoyées vers les acheteurs ? Comment est-ce que ça s'organise d'un point de vue purement logistique ?
Alors, tant qu'on était de petite taille, c'était une organisation à la mano où du coup on se passait le téléphone dans le seul bureau qu'on occupait. On l'a industrialisé depuis qu'on a mis en place Salesforce pour gérer tout notre service client. Donc on a un service client qui s'occupe de réceptionner toutes les requêtes entrantes, quel que soit le canal que choisit le client pour communiquer avec nous. Les requêtes sont qualifiées et ensuite elles sont dirigées vers l'acheteur ou le pôle d'acheteurs qui s'occupe de telle typologie de produit ou de telle marque. Et ensuite, on a une sorte d'astreinte sur le chat en ligne pour avoir toujours quelqu'un qui connaisse les produits. Et si jamais il n'a pas la réponse, du coup, il crée une requête et il dit au client « on vous renvoie un email plus tard ou on vous rappelle quand la personne sera disponible ». Mais voilà, on préfère être transparent et dire « on n'a pas la réponse ». immédiatement. Mais par contre, on sera en mesure de vous l'apporter avec un petit délai de latence. Laissez-nous juste le temps pour pouvoir vous renseigner. Et du coup, dans nos magasins, pour justement pas reproduire le même modèle que moi j'avais constaté, on a la même démarche où les vendeurs, ils sont tous équipés d'une tablette et d'un smartphone. Et si jamais ils ont une demande d'un client à laquelle ils sont pas en mesure de répondre ou ils sentent que le client il est trop technique et qu'il a besoin vraiment d'informations plus poussées, du coup, ils appellent directement la personne qui est responsable de cette marque ou de ce produit. Si elle est dispo, elle prend le client en direct. Ou sinon, ils peuvent aussi directement créer une requête dans Salesforce. Et ensuite, la personne, quand elle est disponible, elle va traiter la requête et répondre directement au client. Donc, c'est vraiment Salesforce qui nous a permis de maintenir ce même niveau de qualité de service qui était un peu artisanal au début et qui aujourd'hui, compte tenu du nombre de requêtes et du nombre de langues dans lesquelles on adresse nos différents clients, a besoin d'être vraiment organisé et industrialisé.
Et du coup, j'imagine que c'est une grande contrainte ou en tout cas un grand axe d'organisation de l'ensemble de la structure et de l'ensemble des équipes qui est de pouvoir apporter ce niveau de conseil. Parce que j'imagine que ça ne se fait pas par hasard, mais que c'est identifié aussi comme étant... peut-être un des avantages compétitifs clés de l'entreprise, et tu te dis, quoi qu'on fasse, il faut que je construise mon système, il faut que j'évolue pour préserver ça, parce que je peux facilement imaginer comment ça aurait pu être perdu quand tu passes rien qu'à 15-20 personnes. Aujourd'hui, vous êtes 60, 80 ?
On est 115 au total aujourd'hui avec les boutiques.
Ok, 115, mes informations datent, ok.
Et en fait, on est... Comment je peux te dire ça ? On est contraint en fait de maintenir cette qualité de service. Déjà parce qu'on vend du matériel qui est technique. Il n'y a pas beaucoup de sites qui vendent du matériel où si tu l'utilises mal, tu te tues. C'est quand même une notion qu'il faut avoir en tête. On ne vend pas des chaussettes ou des slips. Pas que, en tout cas. Et ensuite, on est aussi dans un contexte de concurrence qui est extrêmement fort, avec des acteurs généralistes qui sont capables d'offrir des niveaux de rapidité de livraison que, à notre petite échelle, nous, on n'est pas en mesure d'offrir. Je prends l'exemple d'Amazon qui, pour une commande passée le dimanche soir avant 20h, te livre le lundi à 9h. Enfin, nous, on gère notre logistique en interne, donc je me rends compte quand même de tout ce que ça nécessite en back-office pour pouvoir offrir ça. Nous, compte tenu de notre taille, aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'offrir cette qualité de service, pas encore en tout cas. Et donc, on est obligé de se différencier par d'autres arguments. Et aujourd'hui, si tu veux acheter sur Amazon du matériel d'escalade, avant que tu aies quelqu'un en ligne qui puisse te répondre et te dire « c'est ce produit-là qu'il vous faut parce que, compte tenu de votre pratique, on vous conseille de prendre ce produit-là », c'est pas possible pour eux. Le catalogue, il est tellement large. Alors, il y a des sites aux US qui se montent justement d'advisor en ligne. Mais voilà, nous, on estime que c'est vraiment... dans notre proposition de valeur, c'est à nous de pouvoir conseiller nos clients. Et au final, ce n'est juste qu'une reprise de ce qui se passait dans le petit commerce avant, quand elle est achetée du matériel spécialisé, quelle que soit la verticale. Il y avait un vendeur qui était là, qui était en mesure de te conseiller et de te dire quel était le bon produit. Et même si les clients aujourd'hui, ils ont un niveau de connaissance qui est bien meilleur que ce qu'ils ne pouvaient l'être auparavant, nous, on a quand même notre valeur ajoutée d'être formé par les marques et de savoir, en tant que pratiquant, comment on s'utilise tel ou tel produit et de pouvoir donner des conseils avisés à nos clients. Et ça, justement, dans la relation qu'on entretient avec les clients, c'est extrêmement important parce qu'on n'est pas juste un grossiste. On est vraiment un vrai détaillant, on est une marque. Et dans cette marque, il faut qu'il y ait une proposition de valeur et le conseil est un des éléments primordiaux de cette proposition de valeur.
Donc à ce sujet-là, je trouvais le concept des boutiques intéressant. Ce que j'ai lu, c'est que dans la boutique, il y a environ 5 à 6% du catalogue produit qui est disponible et que essentiellement, c'est j'ai l'impression que c'est presque plus d'avoir un lieu pour les gens de pouvoir se rencontrer, de pouvoir discuter, de pouvoir avoir une présence physique, plus que de dire on va nécessairement vendre l'ensemble des produits dans la boutique. Je ne sais pas si mon analyse est correcte, mais c'est l'impression que j'en avais en me disant, bah tiens, tu peux pas tout avoir. Effectivement, tu perds ce catalogue énorme que tu peux avoir sur Internet, mais tu gagnes quelque chose qui est...
Ton analyse, elle est correcte, mais au final, encore une fois, c'est pas une invention. Les magasins, ils ont toujours été des lieux de rencontre et d'échange. C'est juste que nous, on a essayé de le... Comment je peux dire ça ? De le prévoir dès la conception de la boutique. Y a des magasins qui le sont devenus un peu parce que, par un état de fait, vu que les pratiquants venaient dans ces magasins-là, bah forcément, ils échangeaient en venant faire leurs achats. Mais nous, on a essayé de le prévoir dans la façon dont on a dessiné notre mobilier, dans la façon dont on a conçu nos programmes marketing pour le lancement des boutiques. Mais au final, on n'a fait que reproduire ce qui se passait auparavant. Et sur le, on va dire la faiblesse de la promesse, qui pour le coup est la taille de l'offre en magasin versus la taille de l'offre sur notre catalogue, bah pareil, on a essayé d'y apporter des outils pour en faire le moins possible un moment de friction dans le parcours client. Donc, à différents endroits dans la boutique, il y a des ordinateurs qui sont installés avec des tabourets pour que le vendeur puisse s'installer à côté du client pour pouvoir le conseiller, lui apporter toujours ce petit tips en plus, même si on essaye de faire en sorte que les fiches produits soient le plus complet possible. Et ça permet au client de ne pas être frustré d'avoir une offre qui soit plus réduite dans le magasin physique que sur le catalogue du site.
Aujourd'hui, il y a trois boutiques qui sont déjà ouvertes. Je me posais la question de à quel moment est-ce que vous avez décidé qu'il fallait ouvrir des boutiques ? À quel moment est-ce que la décision se fait de dire on va se mettre sur quelque chose qui est nouveau ? Même si je savais que tu avais un associé à l'origine qui était quelqu'un qui possédait une boutique, donc je suppose que là, il y avait déjà un savoir-faire. Mais c'est vrai que pour une personne qui part du web, se dire je vais faire une boutique, ça fait assez peur. C'est une grande étape et je me demandais à quel moment est-ce que cette étape elle a été franchie ?
Il n'y a pas eu un on-off, ça s'est fait progressivement dans le temps. En fait, dans notre premier entrepôt qu'on avait, qui est sur la route qui monte en station, on avait des clients qui s'arrêtaient juste pour nous dire bonjour ou nous déposer. Comme on offrait un reblochon, bah eux, ils nous offraient quelque chose de leur région au passage avant de monter en station. Donc, on a eu une première étape où on s'est dit ouais, faudrait quand même qu'on fasse un lieu un peu cool pour pouvoir les recevoir parce que nos bureaux c'était vraiment shining à l'époque. Donc on a fait un espèce de bout de showroom où on présentait les produits, ça permettait de montrer un peu l'univers. Et cet entrepôt il est devenu trop petit, on a dû déménager vers l'entrepôt où on est aujourd'hui. Et du coup on s'est dit bon bah là. Faut quand même qu'on fasse les choses un peu mieux. Recevoir les clients dans un entrepôt, c'est quand même pas très classe. Donc en fait, le jour où on a eu l'accord de prêt pour pouvoir lancer la construction de notre nouveau siège social, bah une heure après, on est allé acheter une boutique en centre-ville en se disant bon bah c'est l'occasion de faire ce pas-là. Et donc on a ouvert le premier magasin à Annecy en 2015, en octobre 2015, et c'était vraiment une phase de test and learn. On est arrivé vraiment sans prétention. On a essayé vraiment de créer notre propre modèle avec un mobilier qui soit adapté à la typologie des produits qu'on vend. On a appris un nouveau métier pendant 2 ans. On avait des idées fortes qu'on a voulu appliquer dans le modèle de retail, comme les prix digitaux, par exemple. Pour moi, c'était impossible de faire autrement.
Donc, les mêmes prix que sur le site.
Exactement. Et du coup, quand on modifie un prix sur le site, il est automatiquement modifié dans le magasin dans la minute. L'idée, c'était vraiment de... On était en 2015, les choses elles évoluent tellement vite, mais du coup, en 2015... On avait encore souvent cette question, allez-vous appliquer les mêmes prix entre le web et le magasin physique ? Donc pour purger cette question et vraiment rassurer les clients de ce point de vue-là, on a mis en place ce système-là dès le départ et qui est toujours en place dans les trois magasins. Après, bah, on a dû modifier notre merchandising parce que bah, les 20-80 du site n'étaient pas les mêmes dans les magasins. Ça a aussi accéléré le lancement de notre marque propre parce que du coup, les gens qui venaient dans les boutiques, bah, ils voulaient repartir. Il y avait, comment je peux te dire ça, une sorte de... les gens voulaient repartir avec un souvenir, quelque chose qui marque leur visite dans le magasin. Et donc, ça, on ne l'avait pas forcément prévu au départ. Donc, on a dû vraiment construire notre offre et avoir quelque chose qui tienne vraiment la route. Ensuite, quand on a élargi le nombre de boutiques, il a fallu avoir des collections qui soient propres à chaque magasin, puisque toujours dans cette idée de parcours, bah, les gens voulaient avoir une trace de leur visite dans chaque magasin. Et on a dû adapter nos process, on a dû vraiment accepter de réapprendre et de repartir de zéro, puisque c'était vraiment deux métiers complètement différents, et on l'a fait avec beaucoup d'humilité, parce qu'aujourd'hui, tenir un commerce physique, c'est vraiment un métier à part entière, et ça nécessitait d'avoir de la compétence spécifique et de se laisser le temps d'apprendre.
Et comme c'est, comme tu le dis, un métier à part entière qui demande autant d'apprentissage, c'est aussi à ce point-là qui fait peur, tu vois, c'est de te dire, je vais relancer sur un truc complètement nouveau alors que j'ai déjà quelque chose qui fonctionne. Aujourd'hui, les boutiques, tu considères ça comme un élément qui est déjà pilier en termes de stratégie, ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore en train de se construire et il faudrait avoir beaucoup plus de boutiques pour que ça devienne un vrai pilier?
Aujourd'hui, c'est déjà un pilier dans notre stratégie parce que les boutiques, elles fonctionnent, elles sont profitables. On mesure via nos différents outils de Metrics qu'elles ont aussi un effet profitable sur la zone de chalandise qu'elles adressent sur le web. Elles sont vraiment un élément de réassurance dans le parcours client.
Donc, tu as plus de commandes sur les gens qui sont proches d'une boutique versus sur des gens qui sont sur une ville similaire mais sans boutique.
Alors, on ne le mesure pas comme ça. On mesure la croissance du chiffre d'affaires sur une zone de chalandise.
D'accord.
Et on compare par rapport à notre croissance sur la France. Et on voit que notre croissance, elle est décuplée sur les zones de chalandise autour des boutiques.
D'accord.
Après, même si c'est un pilier aujourd'hui dans notre stratégie, ça ne nous interdit pas de repenser le pilier, de se dire qu'il y aurait peut-être différents modèles. Aujourd'hui, nos boutiques, c'est des formats de 100 à 150 mètres carrés en centre-ville, quand nos concurrents sont plutôt sur des caisses de périphérie de 1000-1500 mètres carrés. Donc, on est toujours en constante réflexion et de se dire, est-ce que le modèle de centre-ville, c'est pas un modèle parmi d'autres? Est-ce qu'il faut vraiment focusser uniquement sur ce modèle de centre-ville? Donc c'est vraiment dans l'ADN de Snowleader, de toute façon, de rien considérer comme acquis et de toujours se poser des questions, de se remettre en cause. Mais aujourd'hui, c'est le fait d'être en commerce physique, c'est un pilier de la stratégie de Snowleader. Et on veut l'accélérer. On voit que ça a vraiment des effets positifs à plein de niveaux, que ce soit en termes de marketing, en termes de service client, dans le relationnel avec nos fournisseurs. Enfin, ça apporte du bénéfice à tous les étages, quoi.
Récemment, vous avez fait une grosse levée de fonds. Vous avez levé 10 millions d'euros, si le chiffre est correct.
Le chiffre est correct.
Est-ce que c'est principalement pour ouvrir des boutiques ou est-ce qu'il y a tout un tas d'éléments de croissance? Je sais que vous avez forcément pas mal de questions en termes de trésorerie, en termes de stock, avec la croissance que vous avez. Voilà. Pourquoi lever autant d'argent? Est-ce que c'est principalement pour les boutiques ou est-ce que c'est plus large que ça?
C'est plus large que ça. Les boutiques, c'est un des axes de notre croissance qui consomme beaucoup de cash du fait de notre volonté d'être implanté en centre-ville sur des emplacements 1 bis. Donc, ça coûte assez cher. Et si aujourd'hui, on doit avoir une analyse héroïste sur nos investissements, ça génère plus de chiffre d'affaires d'investir sur le web que d'investir dans des magasins physiques. Mais ça, c'est une analyse financière sur Excel. C'est pas une analyse de marketeur. Et d'un point de vue marketing, on sait que les boutiques, elles, en plus d'apporter du chiffre, bah, elles génèrent de la notoriété, de l'image de marque, de la réassurance. Mais tout ça, c'est des éléments qui rentrent pas dans Excel et qu'on a du mal à valoriser à nos partenaires bancaires qui eux, ont uniquement un prisme Excel pour juger de la pertinence de nos investissements. Donc, c'est en ça où la levée de fonds, Elle nous permet d'avoir un effet de levier et de rassurer nos partenaires bancaires sur la capacité de Snowleader à pouvoir lever de la dette et continuer à maintenir son plan d'ouverture de magasins. La levée, elle a aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle nous apporte du cash pour pouvoir financer notre croissance. Snowleader a toujours été rentable depuis qu'on existe. Mais rentable, ça ne veut pas dire être profitable et pouvoir générer assez de cash flow pour financer notre croissance. Donc, compte tenu de notre rythme de croissance qui est de l'ordre de entre 20 et 40% par an, bah, on a besoin de cet apport de cash qui finance la croissance. Et la levée de fonds, le troisième axe, c'est aussi d'accélérer nos développements sur tout notre système d'information. On a eu ces trois dernières années un switch vraiment du desktop au mobile qui nécessite des nouveaux usages, des nouveaux besoins de la part de nos clients. Et la levée, elle va aussi permettre d'accélérer et de financer ces nouveaux développements qu'on souhaite mener.
Je pense qu'il y a des gens qui vont écouter et qui se demandent comment est-ce que c'est possible que ton entreprise elle soit rentable, mais à la fois d'avoir besoin de lever de l'argent pour financer la croissance. Donc, je pense qu'un des points qu'on peut mentionner, notamment dans ton cas, c'est la question de l'inventaire. C'est qu'avant de pouvoir vendre des produits, il faut les acheter. Si tu vas grossir de 40%, il faut que tu achètes 40% de plus de stock pour l'année prochaine. Et donc, il faut toujours que tu sois en anticipation de tes besoins futurs. Si tu ajoutes à ça les effets saisonniers où il faut stocker avant parce que tu vas avoir une grosse période, tu es surpris de voir que vous avez aussi une grande période à Noël, ce qui est le cas probablement universellement de tous les e-commerçants, même si dans votre cas, on aurait pensé que ça arriverait un peu avant. Donc c'est ça, c'est vraiment sur tous ces fonds de roulement, surtout le fait que c'est parce que techniquement on est rentable qu'on a assez d'argent pour pouvoir essentiellement financer tous les besoins de la croissance, toute la trésorerie dont on va avoir besoin. Et que si tu te maintiens sur de l'e-commerce à te dire il faut uniquement que je finance avec ce que j'ai généré comme bénéfice, tu vas brider essentiellement ta croissance potentielle parce que tu ne peux pas racheter suffisamment de stock.
Bah, ça a été mon apprentissage. Tu viens de résumer mon apprentissage de la finance au début de Snowleader. Moi, j'ai un profil plus marketing au départ, et c'est vrai que tout ce qui était cours de finance, j'ai pas suivi avec assiduité ces cours-là, j'aurais dû. Et en fait, quand on a grossi au départ sur la phase 2008-2011, bah, je comprenais pas, en fait, on était toujours short en trésor, alors qu'on était profitable et qu'on faisait des croissances vraiment qui étaient importantes. On est passé de 0 à 2 millions en 2 ans. Donc, vu de mon point de vue de marketeur, bah, tout allait bien. Et puis, à chaque fois que je voyais le comptable, il me disait « Non, mais là, vous avez plus de cash, c'est la cata. » Bon. Et donc, j'ai appris en accéléré ce qu'était le BFR. Et donc, effectivement, même si on était rentable, bah, on ne brûlait pas du cash du fait de nos pertes. Mais notre croissance nécessitait qu'on ait une réserve de cash plus importante pour pouvoir financer nos achats, pour pouvoir financer ce dont on avait besoin pour pouvoir réaliser cette croissance. Le stock est un élément, mais les mètres carrés pour pouvoir stocker en sont un autre, le personnel. Un exemple, un acheteur qui rédige une fiche produit, bah, il faut pouvoir le payer en amont avant que le produit génère de la valeur et de la marge pour pouvoir le payer. Les racks, enfin, je te passe tous les détails. Tout ce qu'il faut aussi d'un point de vue IT pour pouvoir expédier, stocker, gérer, donc ERP, WMS et compagnie. Et donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de réaliser des levées de fonds pour pouvoir financer ce développement, puisque dans la logique bancaire, les banques, elles ne prêtent, elles peuvent avoir des tolérances, mais en tout cas, elles ne prêtent qu'à la hauteur des fonds propres de l'entreprise. Et nous, au départ, avec mon associé, on l'a monté avec nos deux livres à jeunes. Donc, on avait 12 000 euros de capital au départ. Ce qui, pour une boîte qui fait 35 millions d'euros aujourd'hui, était quand même un peu ric-rac en termes de fonds propres. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette logique de levée de fonds. Mais qui est atypique malgré tout dans le e-commerce, puisque nos levées de fonds, elles ont toujours servi à financer le développement et elles n'ont pas servi à financer notre cash burn, comme on dit, donc financer nos pertes. Et ça, c'est atypique.
C'est atypique parce que beaucoup de gens lèvent des fonds pour faire des grosses campagnes de pub Facebook espérer rentabiliser le truc plus que...
C'est exactement. Ça. Mais nous, dans notre modèle, aujourd'hui, on travaille à peu près avec 400 fournisseurs. Il y en a quand même une grande partie qui sont des entreprises familiales, très attachées à l'univers de la montagne, où ce type de comportement n'est pas très bien accepté. Et donc, avec du recul, aujourd'hui, je pense que la richesse de notre catalogue et les relations qu'on entretient avec nos fournisseurs, bah, elles viennent aussi de cette logique financière bah, plus proche d'une logique bon père de famille que de la logique start-upper. On lève beaucoup d'argent, on investit beaucoup et on voit de quel côté la pièce retombe, quoi. Nous, on a vraiment eu une approche prudente et pragmatique sur notre stratégie financière.
J'ai vu aussi que, effectivement, ça n'a pas toujours été facile de convaincre certains fournisseurs. Et encore une fois, c'est un point qui peut poser question aux gens, c'est-à-dire à partir du moment où tu propose de vendre des produits ou tu veux acheter des trucs, pourquoi est-ce qu'un fournisseur aurait besoin d'être convaincu? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça et de à quel moment est-ce que ça a été important de convaincre les fournisseurs? Pourquoi et qu'est-ce qui a fait que finalement tu as pu les convaincre?
Alors si on repart depuis le début, donc 2008, le e-commerce en est à ses balbutiements. Il y a énormément d'acteurs qui se lancent. Il y a beaucoup d'acteurs qui se plantent. Qui laisse des ardoises importantes aux fournisseurs. Et la logique du e-commerce à son lancement était le prix. Tous les acteurs se lançaient en ayant une proposition de valeur qui est d'acheter moins cher. Et donc, ça ne plaisait pas aux marques qui, du coup, dans leur proposition de valeur, voulaient vendre de la qualité, de la nouveauté. Ce qui correspondait à nous, ce qu'on voulait faire. Mais sauf que le niveau de maîtrise des outils digitaux au sein des marques, il était extrêmement faible. Hein. Panier moyen, taux de conversion, trafic, et trois quarts des interlocuteurs nous regardaient avec des grands yeux sans comprendre de quoi on parlait. Donc, bah, on a vraiment eu une approche pédagogique, de patience, de se servir aussi de notre réseau dès le départ pour convaincre les fournisseurs amis. Et ensuite avoir un effet boule de neige pour aller chercher les autres qui voyaient qu'on payait nos factures, que les prix étaient tenus et que le business grandissait et que les fournisseurs qui ne travaillaient pas avec nous avaient envie de profiter de notre croissance. Et donc c'est vraiment le temps, la patience et la pédagogie qui ont permis d'avoir ce catalogue qu'on a aujourd'hui.
Du coup, c'était un vrai problème de démarrer sans avoir tous les fournisseurs. Si les gens viennent et cherchent une marque en particulier et que tu ne peux pas la voir, comment est-ce que tu gères ça?
À l'époque, non, parce qu'on était plus petit, moins connu et qu'entre guillemets, le niveau de seniorité des acheteurs, il était plus faible. Donc, ils toléraient le fait que toutes les marques ne soient pas disponibles. Si aujourd'hui, on devait se lancer maintenant... je pense qu'effectivement, on serait moins bien perçu par le marché si on arrivait avec le catalogue qu'on avait en 2008. Mais ça, c'est vrai pour les marques, mais c'est aussi vrai pour tout un tas de choses. Les paiements échelonnés, les différentes solutions de livraison, le fait de pouvoir payer dans sa devise pour les clients étrangers. Le niveau d'exigence globale du consommateur, En 12 ans, il a explosé, quoi. Ils ont été biberonnés par la qualité de service d'Amazon sur tous ces aspects. Et du coup, ils ne tolèrent plus rien maintenant. Donc, il faut vraiment être irréprochable sur l'ensemble des éléments de la proposition de valeur.
Et du coup, comme tu avais un associé qui était à l'origine quelqu'un qui était propriétaire d'une boutique, je me suis demandé s'il n'y avait pas un moyen de contourner un peu problème, puisque lui, j'imagine qu'il devait déjà avoir des fournisseurs qui fonctionnaient. Est-ce que tu ne veux pas utiliser le stock de la boutique pour expédier à tes clients, ou est-ce que c'est un truc qui ne se fait pas, ou est-ce que c'est un truc qui a été fait mais ça ne suffisait pas?
Ça a été fait, mais vraiment à la marge, parce que dès la première année, le site faisait plus de chiffre d'affaires que la boutique de mon pote qui avait 30 ans d'existence, quoi. Ouais. Donc, on ne pouvait pas... entre guillemets, piquer le stock du magasin pour appauvrir le magasin. C'était vraiment pas l'idée. Mmh. Donc, Au départ, on a lancé. Bah, moi, je venais de chez Nike, donc j'avais un réseau plus dans les marques de prêt-à-porter et de textile. Et puis, mon associé, lui, il avait plus un réseau dans les marques de hard goods, donc les Rossignol, Salomon, K2 et Consors. Et du coup, c'est vraiment l'assemblage de nos deux réseaux qui a permis d'avoir une offre qui était cohérente au lancement. Et puis bah, après, les autres, voyant qu'on avait bah, déjà dans l'univers du streetwear, quant à Nike, t'es quand même un acteur crédible. Et pareil sur toute la partie sport d'hiver, si t'as les deux, trois leaders, ça entraîne les autres à suivre le mouvement.
Donc c'est vraiment un effet boule de neige où faut que tu mettes le pied dans la porte d'une manière ou d'une autre, que ce soit par tes contacts personnels ou d'une autre manière. Mais ensuite, personne n'a envie d'être le premier à travailler avec toi. Mais plus il y a de monde qui travaille avec toi, plus les autres se disent, bah tiens, c'est pas un risque si sévère que ça.
Exactement.
Je voudrais revenir sur quelques petits aspects marketing plus spécifiques que j'ai remarqués chez vous. Le premier, c'est, j'ai vu que récemment, vous avez organisé un événement au Grand Rex avec un vidéaste. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce vidéaste, de ce que vous faites avec lui et du rôle que ça joue.
Alors, du coup, c'est une web série qui s'appelle Rancho. Rancho, c'est un personnage qui est joué par Enak Gavagio, qui est un ancien skieur cross, qui a créé ce personnage, qui est un skieur qui teste tous les skis dans toute leur largeur sur plein de surfaces différentes. Qui va à la rencontre d'athlètes. C'est une web série qui fonctionne super bien en France, qui est sans doute la web série la plus suivie. Et comme c'est décalé et que ça mélange différents sports, bah, on va dire que le partenariat avec Snowleader, il est venu assez naturellement. On leur a aussi créé une marque qu'on gère sous licence avec eux pour pouvoir vendre des produits dérivés et décalés qui correspondent à l'image de la série. Et pour continuer de faire des choses innovantes et décalées, pour la quatrième année, je crois, de notre partenariat, on a décidé de co-organiser avec eux une diffusion de l'ensemble de la nouvelle saison au Grand Rex. Pour avoir un événement de lancement de saison à Paris, où se trouve quand même la majorité de nos consommateurs. Et voilà, de faire quelque chose de différent, d'atypique. Et eux n'avaient pas forcément les ressources pour pouvoir organiser une telle soirée. Donc on l'a organisé avec eux pour pouvoir donner un peu plus de corps à l'événement, quoi. Et c'était vraiment cool. On a réussi à réunir un peu plus de 1 500 personnes de mémoire. Et il y avait une super ambiance parce qu'on a fait une soirée derrière où les gens pouvaient discuter. L'idée, c'était à la fois de pouvoir voir en exclusivité cette nouvelle saison, mais toujours de partager un bon moment, de pouvoir échanger avec la communauté montagne. Et c'était vraiment cool. C'était vraiment un super moment.
Donc eux, ils avaient déjà commencé leur web série. C'est pas vous qui étiez à l'origine, mais vous êtes venu, vous avez fait, on va sponsoriser les vidéos, c'est ça? On va vous filer peut-être du matos.
Voilà, on a fait du billboard sur les vidéos
D'accord.
Et on a lancé la marque en même temps. On voulait pas, c'est pas dans notre façon de faire de juste mettre un logo et de dire on donne du budget pour pouvoir aider à la production de la série. Ça, c'est vraiment pas notre façon de faire. Donc, il fallait qu'on trouve quelque chose de différent et de cool. Et donc, dès le lancement, on a lancé cette marque de produits Rancho. Donc, il y a son fameux bonnet qui est un réplica d'un bonnet un peu de Teletubbies très atypique, qui est le bonnet le plus vendu sur le site, hein, quand même. Et parce que les fans de la série s'identifient vachement aux personnages et qui sont ravis de pouvoir montrer leur appartenance à cette communauté en ayant ce bonnet-là. Et donc, du coup, on était revendeur exclusif de ces produits. On a aussi incité les marques qui travaillaient avec Rancho à développer des produits en co-branding. Donc, il y a notamment Jules Beau qui l'a fait avec une paire de lunettes et un masque dédié Rancho. Il y a aussi la Chaussette de France qui a fait une chaussette dédiée. Et c'est des produits qui fonctionnent super bien et qui ont permis aussi à la web série d'avoir les moyens d'améliorer la qualité de leur production parce que pour eux, c'était du revenu additionnel qu'ils n'avaient pas forcément anticipé dans leurs outils de financement, quoi.
Donc, tu n'as pas seulement mis des vidéos sponsorisées, tu as aussi largement élargi, eux, leur champ d'action et ce qu'ils pouvaient faire parce que créer son propre produit quand tu es vidéaste, c'est beaucoup de boulot, surtout si tu pars de zéro. Tu leur donnes un raccourci pour mettre tout ça en vente, pour le créer, pour avoir les aspects logistiques, fabrication, etc.
Exactement, on a essayé. Bah, c'est notre façon d'être partenaire et c'est ce qu'on fait avec, avec les différents athlètes qu'on a sous contrat. C'est vraiment de leur donner les moyens d'améliorer leur notoriété, d'améliorer leur nombre de followers ou leur nombre de vues. Et pour le coup, avec Rancho, on a vraiment exploité un peu toute la palette d'outils qu'on pouvait avoir, du merchandising, du produit, de l'événementiel, du relais de diffusion des vidéos. Et pour le coup, tout le monde est content puisque nous, on est un de leurs plus gros partenaires et on en retire de la visibilité. Et eux sont extrêmement contents puisque du coup, ils ont pu améliorer leurs revenus et ils ont amélioré leur notoriété grâce à leurs partenaires. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui fonctionne extrêmement bien.
Et je pense que c'est une notion intéressante parce que la plupart des gens ont une vision assez binaire de la négociation, en gros, où ils imaginent que si tu es de marque et que tu travailles avec un influenceur, bah, la question c'est combien je vais le payer, quoi, et que c'est uniquement de l'argent. Et en réalité, c'est toujours pas vrai parce que numéro un, les gens n'ont pas toujours besoin de plus d'argent. Parfois, il y a des trucs qui valorisent plus. Et que si tu réfléchis de manière plus large à tout ce que toi, tu peux apporter sur la table à cette personne, tout ce que tu peux l'aider à faire, tu peux souvent créer des deals qui sont plus gagnants-gagnants que simplement, bah, OK, on va négocier sur combien je vais te payer. Là, tu lui apportes des trucs que peut-être lui, il n'aurait pas été capable de faire tout seul ou qui auraient été extrêmement difficiles à faire pour lui, mais qui sont relativement faciles à faire pour toi parce que tu sais déjà les faire et tu as déjà l'infrastructure en place. Et donc, tu peux avoir des vrais partenariats gagnants-gagnants comme ça voilà, qui sont pas uniquement basés sur un seul canal qui est le prix. Et moi, beaucoup de gens tu vois, viennent me proposer des trucs sponsorisés qui n'ont pas un grand intérêt pour moi, en fait. Parce que je ne sais pas si financièrement, ça a un grand sens. Et derrière, il n'y a rien d'autre. Tu vois, ça m'aide à aucun de mes objectifs. Et donc, finalement, bah, c'est assez facile de passer dessus si tu ne dépends pas de ces partenariats sponsorisés. Alors qu'inversement, quand tu commences à réfléchir de manière un peu plus transversale à ce que tu peux apporter, à toutes les manières dont tu peux apporter de la valeur aux gens, souvent, tu découvres qu'il y a des trucs qui sont peut-être plus importants pour eux que le paiement cash en jour 1.
Bah, c'est ouais, ce que tu dis est très juste et s'applique dans plein de domaines différents. C'est aussi un discours que je tiens vis-à-vis de mes collaborateurs quand je les embauche, où bah, du coup, effectivement, tu valorises ton salaire, mais tu valorises pas aussi toute la proposition de valeur qu'il y a autour en termes d'apprentissage, de qualité des projets que tu vas pouvoir mener. On le valorise effectivement dans nos partenaires, avec nos athlètes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'avoir en tête en permanence parce que bah, le cash, ça fait pas tout et il faut voir aussi tout ce qu'on peut apporter autour et c'est souvent plus durable que le cash.
Un autre élément purement marketing et vraiment spécifique que j'ai remarqué sur votre site, mais qui m'a vraiment énormément intrigué, je voulais absolument en discuter avec toi, c'était le Mountain Club. Donc, essentiellement, tu as différents niveaux qui sont basés sur le volume de commandes de la personne sur les 12 derniers mois, qui permettent d'avoir accès à différents avantages. Et tu me corrigeras si je loupe certains détails. Mais ce qui était impressionnant, c'est que les bénéfices sont vraiment marquants. Souvent, quand je vois des gens faire ce type de truc, je me dis, ouais, c'est un petit peu comme les coupons de réduction de quelques pourcents. Et là, tu as des éléments où si les gens ont suffisamment commandé, ils peuvent avoir accès à une assurance qui leur permet de se faire rapatrier. Ils ont des vrais bons de réduction. Il y a un magazine qui est là pour les gens qui ont acheté plus de 1 000 euros ou de 2 000 euros. Je suis curieux de savoir comment ce programme-là est entré en pratique. Ils ont les livraisons gratuites aussi. Comment ce programme-là est entré en pratique? Comment est-ce qu'il s'est développé? Est-ce qu'il était là depuis le départ, comme le Roblochon? Est-ce qu'il est arrivé au fil du temps? Et comment est-ce que ça s'est décidé? Parce qu'on a un vrai tableau sur le site avec toutes les récompenses que tu as en fonction de ton volume de commandes. Et c'est des vraies récompenses qui ont vraiment de la valeur. C'est pas un truc token pour te dire « Ah là, t'es un champion, je t'ai mis un badge ». Il y a vraiment des bénéfices qui sont intéressants. Tu vois. comment est-ce que c'est apparu ce programme-là?
Alors, le Snowliter Mountain Club, il est apparu en 2016. En fait, c'est rigolo, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Il est apparu, en fait, c'est une conséquence du Black Friday, le Snowliter Mountain Club.
OK.
Comme tu le disais tout à l'heure, Noël est une grosse période de business pour nous. Et c'est une période de business où on génère vraiment une part importante de nos marges qui nous permettent d'être à flot d'un point de vue trésor tout au long de l'année. Parce que c'est une période historiquement où il n'y avait pas de promotion et où il y avait beaucoup de demandes parce qu'on fait des cadeaux, parce qu'on a besoin de s'équiper avant le début de la saison. Et l'apparition du Black Friday, elle a vraiment mis à mal notre modèle économique parce que tout le travail qu'on avait mis en place de relations avec nos clients, de conseils, de qualité des fiches produits, il a volé en éclats quand tous nos concurrents se sont mis à faire entre 20 et 25% de remise les 10 derniers jours du mois de novembre où on faisait du business full price auparavant. Et donc, notre première réponse a été de dire on fait rien. Après, on s'est dit on suit. Mais quand on s'est mis à suivre, en termes de marge, c'était vraiment catastrophique pour nous. Et donc, plutôt que d'offrir un badge, comme tu le disais, on s'est dit, le Black Friday, ça nous coûte plusieurs centaines de milliers d'euros qu'on offre en remise. Prenons une partie de cette valeur. Regardons ce que ça donne en termes de nombre de clients impactés par les paliers qu'on propose aujourd'hui dans le Snowliter Mountain Club et réinjectons cette valeur dans la relation client avec différents outils. Donc, tu l'as dit, le magazine qu'on offre. Pour les clients qui dépensent plus de 2000 euros par an, on leur offre aussi une sortie guide tous les ans. On leur offre l'assurance. Enfin, voilà, on a différents... pas cadeaux, mais en tout cas instruments pour les remercier de leur fidélité. Et donc c'est comme ça qu'on a vraiment construit notre programme et qu'on a décidé de qu'est-ce qu'on pouvait offrir dans cette relation. Et ça, on va dire que l'aboutissement de ce programme-là, c'est notre week-end qu'on organise à Val Thorens qui devait avoir lieu le week-end prochain, qui a été annulé suite à la fermeture des stations. C'était la quatrième édition, où en fait, on crée un événement à Val Thorens où on fait tester le matériel de la saison d'après en exclusivité à nos clients. Et donc, le prix du week-end est dégressif en fonction de son statut dans le programme de fidélité. Et pareil, pour ces clients qui dépensent plus de 2000 euros par an, on les invite pendant 2 jours à l'hôtel Altapura, qui est sans doute un des plus beaux hôtels qui existe dans les stations de ski françaises, qui a un 5 étoiles avec spa, piscine extérieure. Et du coup, on les cajole pendant 3 jours. On leur fait essayer les skis avec les marques. Les marques envoient leurs ambassadeurs pour pouvoir faire une descente avec les clients. Et du coup, dans cette relation qu'on entretient avec nos clients, même si on leur donne pas de badge pour leur montrer quel est le statut, c'est vraiment un moment qui est important pour les clients parce qu'ils passent du temps avec nous. On a sur les inscrits de la quatrième année, on avait 500 personnes qui étaient préinscrites et sur les 500, la moitié avait déjà fait les 3 premiers événements. Donc c'est un taux de repeat que beaucoup d'e-commerçants aimeraient avoir sur des produits traditionnels. Là, c'est quand même des gens qui se déplacent de partout en France, en Europe même, pour venir pendant 3 jours au ski, à Valto, en un des derniers week-ends de la saison. Donc voilà, ça nous permet de mesurer vraiment le taux d'engagement de notre communauté. Et le Snowliter Mountain Club est vraiment là pour... dire à nos clients, bah, peut-être qu'on n'est pas les moins chers sur ce produit-là, peut-être qu'il y a 9, 15 euros de différence sur un produit, mais regardez tout ce que vous avez à côté et que personne d'autre ne peut vous offrir. Aujourd'hui, quand on est fan de ski, de pouvoir tester en avant-première l'ensemble des paires du marché en exclusivité avant qu'ils soient même sur le marché, c'est quelque chose d'unique, d'atypique. Et ça permet de... Encore une fois, ça reprend un peu ce qui se faisait historiquement dans le commerce. Quand on était client d'une enseigne, on se sentait connu, on arrivait dans la boutique, comment ça va monsieur machin, on prenait des nouvelles des enfants. Et donc du coup, le Snow Leader Mountain Club, c'est une façon moderne de considérer le client et de faire en sorte qu'il soit content d'acheter toujours dans la même enseigne sans, pour chaque achat, aller comparer le prix et trouver le produit le moins cher pour aller gratter 2 ou 3 euros. Et c'est pas ça qui compte au final. Ce qui compte, c'est la qualité de service, le fait de toujours être bien servi. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre de ce programme.
Ça revient du coup à ce qu'on disait tout à l'heure sur les partenaires et les influenceurs, qui l'idée que la seule manière de négocier avec quelqu'un, ce n'est pas toujours de négocier sur le chiffre le plus évident, sur le prix, mais que tu peux aussi apporter des avantages additionnels qui ne sont pas forcément aussi faciles à quantifier. Combien ça vaut d'avoir pu tester les nouveaux skis ? Est-ce que tu peux mettre un prix là-dessus ? Ce n'est pas évident de le quantifier, mais pour les gens, ça a une grande valeur et c'est quelque chose qui vaut plus que... Voilà, les quelques euros, comme tu dis, qu'ils auraient pu économiser à droite à gauche. Donc, en pensant de manière plus large à la valeur que tu apportes et aux avantages non financiers que tu peux apporter, tu peux créer une grande différenciation, effectivement, quelque chose qui serait excessivement difficile à répliquer. Je pense que l'autre aspect qui est intéressant ici, c'est que, au final, là, tu parles sur ton week-end de quelques centaines de personnes et on pourrait se dire, bah, à ton échelle, est-ce que ça a vraiment du sens de passer autant d'efforts et autant de dépenses sur ces quelques centaines de personnes ? Je pense que, et tu me diras si toi tu penses de la même manière, c'est qu'en fait il faut réfléchir au fait que les gens qui sont tes clients les plus fidèles, c'est aussi les gens qui vont parler de toi et qui vont être tes ambassadeurs en fait. Et que ça vaut le coup d'investir de manière quasiment démesurée sur ces petites personnes qui sont les. Sur ce petit groupe de personnes qui sont les plus motivées, qui sont les plus impliquées, qui sont le cœur de ta communauté. Parce que toute communauté ou tout groupe en fait fonctionne à partir d'un petit noyau de gens qui sont une fraction des clients. Mais qui sont les gens qui sont les durs de durs, les plus motivés, les plus impliqués. Et je me demande si ce n'est pas aussi cette réflexion qui peut se faire au niveau de qui sont les ambassadeurs, qui sont les gens qui vont le propager, qui sont les gens qui vont en parler, qui sont les gens qui vont aussi maintenir les valeurs de la marque en vie parce que c'est eux qui y croient vraiment et c'est eux qui les défendent. Est-ce qu'il y a aussi un petit peu de cette réflexion dans l'idée de dire on veut distinguer nos clients les plus fidèles et leur donner aussi un moyen de se rencontrer ? Ce qui va évidemment renforcer leur appartenance à la marque.
Ah bah complètement. Déjà par rapport à l'événement, sur ta première question, alors effectivement, le nombre de clients qui se déplacent versus le nombre de clients qu'il y a dans notre base, il est faible. Mais on a quand même aussi beaucoup d'outils pour pouvoir faire vivre l'événement auprès de nos clients sur les réseaux sociaux pour pouvoir diffuser le message de l'événement de façon un peu plus large. Et après, sur les prescripteurs... T'as entièrement raison. On avait historiquement un gros travail sur les avis, vraiment pour apporter une réponse à tous les avis négatifs qu'on peut avoir. Et cet événement, il va dans le même sens à vraiment essayer d'avoir une relation extrêmement forte et de faire de nos clients des prescripteurs de la marque pour montrer à leur communauté que Snow Leader est un acteur différent des autres acteurs sur le marché. Et le fait de pouvoir participer à ce week-end, de voir que derrière ce site web, il y a des vrais humains qui sont là, de pouvoir mettre des visages sur les gens qu'ils ont pu avoir au téléphone, ça concourt vraiment à la création de cette relation, qui est une relation qui n'est plus uniquement mercantile, mais qui devient vraiment une relation affective entre un client et son enseigne. Et ce que tu disais tout à l'heure sur les influenceurs ou les différents partenaires qui gravitent autour d'un e-commerce, Elle s'applique aussi aux clients finaux. Quand tu entretiens de bonnes relations avec, je ne sais pas, ton référenceur, une agence, un UX, peu importe, bah, tu ne vas pas tout le temps challenger le prix. Et si tu sais qu'il comprend ton problème et bah, voilà, t'as un deal qui est en place avec telle personne et tu respectes le deal et tu continues de travailler avec lui parce que tu sais que ça t'apporte de la valeur de toujours travailler avec la même personne. Et nous, on essaye de dupliquer ce modèle-là avec nos clients. Quand tu es satisfait d'une enseigne et que tu as toujours le bon produit, si tu as un problème de SAV, c'est réglé rapidement, bah, tu ne vas pas essayer d'aller gratter pour trouver un produit qui va être 5 ou 10% moins cher. Si tu es satisfait du service et que tu ne te fais pas voler sur le prix, bah, du coup, tu continues de tout le temps faire tes achats au même endroit. Et donc, c'est un peu plus compliqué de le faire en B2C qu'en B2B. Mais en tout cas, nous, on pense que dans notre modèle économique, c'est vraiment un enjeu majeur d'arriver à maintenir ce lien-là, puisque si on devient trop généreux en termes de remise, bah, notre modèle économique s'effondre et on n'est plus en mesure d'offrir la même qualité de service. Donc, plutôt que d'offrir de la remise, bah voilà, on préfère offrir de la valeur au client et on sait que ça ne peut pas répondre à l'aspiration de 100% du marché, mais ça répond à une frange du marché qui est intéressée de tout le temps acheter chez nous, et ce qui permet d'augmenter notre repeat.
Thomas, avant de terminer, je me pose la question de qu'est-ce que ça fait d'avoir bossé pendant 12 ans sur le même projet. Et la première petite question préliminaire à ce sujet, c'est est-ce que tu avais eu d'autres business avant Snow Leader ou c'était vraiment ton premier projet?
Non, c'était mon premier projet.
Qu'est-ce que ça fait du coup d'avoir travaillé pendant 12 ans sur ce projet? Quel recul t'en as? Est-ce que tu te dis, bon, en gros, c'est ma carrière, c'est ça que je fais, c'est ça que je construis et je suis à fond dedans? Ou est-ce que tu te dis, OK, c'est une étape? Comment est-ce que tu réfléchis par rapport à ça? Et voilà, sur ce recul de tout le temps que tu as passé à construire cette organisation.
Et c'est une excellente question encore. C'est une question que je me pose, que je me posais pas du tout et que je commence à me poser maintenant, parce qu'effectivement, ça fait 12 ans et que bah, quand je discute avec mes potes qui changent de boîte, qui changent de boulot, bah, du coup, je me dis, ouais, bah, ça serait peut-être cool de changer, de faire autre chose. Et puis en fait, je me rends compte que depuis 12 ans, bah, mon boulot, il a peut-être changé, je sais pas, 12 fois, ce serait exagéré, mais mes missions, elles ont vraiment évolué constamment depuis le début. Et en fait, ce qui maintient mon intérêt dans mon quotidien, dans ce que je fais, c'est le changement et c'est de faire de nouvelles choses. Donc le jour où j'arriverai plus à développer des nouveaux projets, que je m'ennuierais, que je trouve que je fais tout le temps la même chose depuis trop longtemps, bah là, ça sera peut-être le moment de soit de vendre ou soit de trouver un manager opérationnel et puis moi de faire autre chose. Mais aujourd'hui, le développement du retail, ça a été vraiment une mission complètement nouvelle où il a fallu apprendre. Donc ça, c'était top. On s'est lancé dans 7 pays les 4 dernières années. Donc ça, c'est pareil en termes de façon de consommer, d'outils qu'on doit proposer dans les tunnels, sur le site. C'est beaucoup d'apprentissage. La levée de fonds, tu l'auras compris, la finance, c'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est aussi des moments où tu apprends énormément. Dans les roadshows, quand tu vas pitcher auprès des fonds, même si ce n'est pas toujours très agréable, tu en retires toujours quand même du savoir et des idées pour pouvoir continuer à développer le projet. Aujourd'hui, on était plus en manque de temps et de cash pour pouvoir développer les projets qu'autre chose. Donc maintenant que la levée de fonds elle est réalisée, on a vraiment les moyens de nos ambitions et je m'éclate et ouais, pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter, quoi. Tant que ça me plaît et que je prends du plaisir et que je me lève tôt le matin pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire dans la journée, bah, je continuerai.
Et cette petite voix qu'ont beaucoup d'entrepreneurs qui te fait dire « Ah tiens, bah, j'ai une nouvelle idée, je vais faire ça en parallèle, je vais mettre un truc sur ce projet, je vais mettre une bille ici, une carte ici, je vais investir là, je vais jouer le business angel. » Tu l'as cette petite voix ou tu l'as pas? Et si tu l'as, voilà, comment est-ce que tu fais pour la mettre de côté?
Et je l'avais pas trop parce que j'avais pas forcément non plus les moyens de pouvoir le faire. Maintenant que d'un point de vue pouvoir d'achat, je sais pas comment on dit, ça va un peu mieux. Effectivement, ça commence à un peu plus me titiller. Pour l'instant, je suis pas passé à l'acte, mais ouais, je suis pas loin de le faire. Je suis actif dans un cluster d'entreprises de la outdoor où du coup je donne des conseils à titre gracieux à des entrepreneurs ou à des gens qui ont des projets et qui sont pas forcément passés à l'acte encore. Et c'est vrai que des fois quand je vois des beaux projets passer, je me dis ah putain, là ça serait cool de pouvoir passer à l'acte, mais pour l'instant pas fait encore, mais ça ne serait tardé.
Ça marche. Thomas, pour terminer, il y a trois questions que je pose à tout le monde pour clore ces épisodes. La première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ?
Un livre que je recommande souvent, c'est une réponse très classique, mais c'est L'entreprise libérée. Je me souviens plus l'auteur, mais c'est plus sur justement les nouvelles façons de manager qui soient moins pyramidal et qui soit plus justement dans l'échange de connaissances et de permettre aux collaborateurs d'avoir ses propres projets, de lui apporter plus du coaching que des consignes. Voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé et qui m'aide pour manager mes équipes au quotidien.
Ça marche. Deuxième question, si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là il aurait besoin d'entendre?
Ah bah ça pour le coup j'hésite beaucoup moins, c'est d'aller au cours de finance.
Ok, bah c'est très bonne réponse hein. Ok,
c'est vraiment j'ai vraiment souffert dans la première phase 2008-2012. J'adore apprendre, c'est hyper important pour moi de me coucher moins bête tous les soirs. Mais j'ai vraiment eu du mal à comprendre que une entreprise qui ne perdait pas d'argent pouvait être à court de cash. Ça a été, ça me paraît très idiot maintenant, hein. Mais je me souviens avoir eu des discussions avec, pour le coup, des potes qui étaient calés en finance, où je m'énervais, je devenais tout rouge, je disais mais putain, c'est pas possible. Et ça, ouais, j'aurais eu besoin de peut-être d'avoir. D'avoir un entrepreneur qui vienne me parler à l'école plutôt que de profs qui avaient des profils financiers, mais qui expliquaient ça dans la théorie et qui ne savaient pas du tout lui donner une application pratique. Quoi.
Ouais.
Et c'est clair que si j'avais eu ça en tête, j'aurais gagné beaucoup de temps à l'époque.
Troisième et dernière question. Est-ce que tu as un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit ?
Ouais, ça va être un peu con aussi, mais c'est la peur n'évite pas le danger.
Ok. Et qu'est-ce que t'en tires de ça ?
Qu'est-ce que j'en tire de ça ? Que...
Ou dans quelle situation est-ce que cette phrase te vient le plus en tête, par exemple ?
Quand t'es chef d'entreprise, t'es amené quand même à souvent prendre des décisions, tout le temps. C'est fatigant, des fois, de toujours devoir décider, de trancher... t'es constamment sollicité pour prendre des décisions. Et en fait, c'est comme quand t'es en montagne. La peur, c'est pas un sentiment qui te fait faire les bons choix. Il faut toujours essayer d'être en maîtrise, de considérer le danger, de dire, voilà, là, je suis dans une pente, il vaut mieux que je passe par là parce que je vais moins m'exposer. Et en fait, dans le business, c'est pareil. Il faut essayer de se faire un panorama des risques et de prendre sa décision, mais il faut pas avoir peur. Il faut savoir prendre des risques mesurés, et ensuite porter sa décision et aller au bout de ses choix. Et puis comme en montagne, quand tu le sens pas, faut pas y aller. Faut trouver un échappatoire, il faut trouver une autre solution, mais il ne faut pas s'obstiner dans une voie ou dans une pente que tu ne sens pas parce que c'est trop dangereux pour ta vie, quoi. Et dans le business, c'est pareil. Quand tu ne sens pas une décision ou quand tu hésites, bah, il faut reprendre le temps de réfléchir, d'écrire, d'essayer de poser les différents problèmes qui pourraient arriver et de pouvoir ensuite prendre une décision sans avoir peur.
C'est parfait pour terminer. Sur ce, merci Thomas d'être venu discuter, d'avoir partagé tout ce que tu nous as donné aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé les idées de Thomas sur le branding, l'importance de se différencier, l'importance d'avoir un fort taux de conversion, l'importance d'avoir une proposition de valeur qui est unique, l'importance de créer un avantage compétitif sans avoir besoin de vendre moins cher, l'importance d'être la destination numéro un vers laquelle les gens vont quand ils pensent à votre domaine, j'ai peut-être quelque chose qui va vous intéresser. Ça fait plusieurs mois que je travaille avec des experts de l'e-commerce, pas des gens qui sont des formateurs habituels de l'e-commerce, mais des gens qui sont sur le terrain de l'e-commerce et qui bossent dessus tous les jours. Et je leur ai demandé leurs conseils en copywriting, ce qui m'a permis de créer une nouvelle formation en profondeur sur le copywriting avec ces experts, avec des masterclass pour comprendre comment est-ce que tous ces concepts de copywriting, de conversion, de branding dont vous entendez tout le temps parler, et c'est vrai, tout le temps parler, souvent sous l'angle de vendre des formations, souvent sous l'angle de vendre des produits et de services. Comment est-ce que tout ça, ça s'applique très concrètement sur un site e-commerce? Comment est-ce que ça s'applique sur votre fiche produit, sur votre description, sur vos bullet points, sur vos images, sur vos emails? Comment est-ce que vous pouvez faire des lancements de produits, quasiment la même chose qu'on fait en formation et qui fonctionne très bien, mais en e-commerce? Et vous allez voir que ça fonctionne quasiment aussi bien en e-commerce que dans la vente de formation. Et pourtant, la plupart des e-commerçants ne disent absolument pas ce type de tactique. Tout ça, ça sera dans une formation en profondeur sur le copywriting en e-commerce qui a une version gratuite et une version payante. Pour recevoir la version gratuite sans engagement absolument aucun, ça commence dans les prochains jours et ça se trouve à l'adresse marketingmania.fr/ecom. C'est marketingmania.fr/ecom. Si vous êtes vous-même e-commerçant, je serais très content de vous retrouver à l'intérieur et de vous parler de conseils extrêmement spécifiques par rapport à l'e-commerce. Sinon, ça ne vous intéressera probablement pas, donc je m'adresse uniquement aux e-commerçants. Pour tout le monde, je vous retrouve la semaine prochaine, comme toujours, dans le prochain épisode du podcast Marketing Mania.